Il est bien rare que dans le journal du matin, il n'y ait pas un article concernant une affaire, quelqu'un qui a profité de sa position pour se garnir les poches. Ceux qui se font prendre la main dans le sac appartiennent à tous les milieux, politiciens en tête, bien sûr. Mais la corruption n'est pas une pratique nouvelle, c'est vieux comme le monde. Et c'est aussi pour cette raison que les pompes à essence ou les balances publiques sont vérifiées par le Bureau des poids et mesures. Je continue à lire dans le chapitre 45 du livre d'Ézéchiel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. « C'en est assez, prince d'Israël, mettez un terme à la violence et au pillage, appliquez le droit et la justice, cessez d'expulser mon peuple de ses terres, le Seigneur l'Éternel le déclare. Ayez des balances justes. » Versets 9 à 10. L'Ancien Testament aborde souvent la question des poids et mesures justes. Les princes d'Israël sont les chefs des 12 tribus et pendant le millénium, ils auront à charge de faire régner la justice alors que dans le passé, ceux qui dirigeaient le pays avaient la fâcheuse tendance à extorquer leurs administrés. Je continue plus loin. Dans toutes les fêtes cultuelles de la communauté d'Israël, c'est le prince qui pourvoira au sacrifice pour le péché, à l'offrande, à l'holocauste et au sacrifice de communion afin de faire l'expiation pour la communauté d'Israël. Verset 17. J'ai déjà dit que pendant le millénium, l'un des buts des sacrifices sera de réconcilier celui qui a enfreint la loi avec le gouvernement messianique, un peu comme quand on paye une amende. Mais ils rappelleront aussi que Dieu est saint et que lui désobéir est une faute très grave. De plus, ils commémoreront le sacrifice du Christ. En effet, la vue de ces animaux égorgés, brûlés, rappellera ce que Jésus a dû endurer et souffrir pour racheter l'humanité, et donc combien notre salut éternel est précieux. Enfin, pendant le règne de leur Messie, les Israélites obéiront scrupuleusement à la loi théocratique du royaume, y compris l'observation des fêtes avec les sacrifices qui y sont attachés, alors que dans leur histoire, ils n'ont observé les prescriptions de la loi que de manière épisodique et très désinvolte. De ce fait, on pourrait presque dire qu'ils compenseront les rébellions de leurs ancêtres. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je continue le texte. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour de l'an, on prendra un jeune taureau sans défaut et l'on fera l'expiation pour le sanctuaire. Le prêtre prendra du sang de la victime du sacrifice pour le péché et en appliquera sur les montants de la porte du temple, sur les quatre angles du socle de l'autel et sur les montants de la porte du parvis intérieur. Versets 18 et 19. Le premier mois de l'année religieuse israélite se situait à cheval sur mars-avril. La cérémonie décrite a lieu au moment de la première nouvelle lune de l'année et commence par un sacrifice d'expiation qui précède l'holocauste habituel des nouvelles lunes. Son but est de purifier le sanctuaire, rituellement bien sûr, puisque, comme il est écrit dans le Nouveau Testament, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte le péché. Sous la loi de Moïse, dans les sacrifices d'expiation, du sang était aspergé devant le voile du lieu très saint, sur les cornes de l'autel des parfums et au pied de l'autel des holocaustes. Ici, l'aspersion est faite sur les montants de l'entrée au lieu saint du sanctuaire, puis sur le cadre de l'autel des holocaustes et enfin sur les montants de la porte qui donnait accès à la cour des prêtres où le simple Israélite ne pouvait pas entrer. Mais du parvis extérieur, le simple Israélite pouvait quand même voir l'offrande du sang versé à son intention. Je continue le texte. « On agira de même le septième jour du mois pour l'homme qui aura péché par ignorance ou par inadvertance. Vous accomplirez ainsi le rite d'expiation pour le temple. » Verset 20. Cette seconde purification, qui était répétée le septième jour du mois, ne se trouve pas dans la loi de Moïse. Elle remplace le grand sacrifice annuel d'expiation appelé Yom Kippour et qui avait lieu le dixième jour du septième mois. Dans le millénium, cette purification précédera la fête de Pâques. Fête au commencement de l'année,
son but est d'effacer rituellement tout ce qui aurait pu être oublié dans l'année écoulée.
Je continue. Le quatorzième jour du premier mois, vous célébrerez la fête de la Pâque. Elle durera une septaine de jours pendant lesquels on mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice pour le péché, pour lui et pour tout le peuple du pays. Versets 21 et 22. Pendant le millénium, Pâques sera célébrée au même moment et selon les mêmes règles que sous la loi de Moïse. Je continue. Pendant les septaines de jours de la fête, le prince offrira chaque septaine en holocauste à l'Éternel, sept taureaux et sept béliers sans défaut et un bouc en sacrifice pour le péché. Verset 23. Sous la loi de Moïse, la Pâque juive durait sept jours, mais la fête de Pâques sous le millénium s'étendra sur des septaines de jours, une expression qui signifie 7 fois 7, donc 49 jours. La clôture de la fête de Pâques se fera le 50e jour et correspondra à l'ancienne Pentecôte qui sous la loi s'appelait la fête des semaines. Je continue plus loin et finis le chapitre 45. Le 15e jour du 7e mois, lors de la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices pour le péché, les mêmes holocaustes, les mêmes offrandes et la même quantité d'huile. Verset 25. Ici, il s'agit de la fête des cabanes, aussi appelée des tabernacles. Nous arrivons au chapitre 46 d'Ézéchiel, qui règle les modalités des sacrifices pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et les fêtes. Je commence à le lire. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. La porte orientale du parvis intérieur restera fermée les 6 jours de travail. Mais le sabbat et le jour de la nouvelle lune, elle sera ouverte. Le prince, venant de l'extérieur, entrera par le portique de la porte et se tiendra près du montant de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis se retirera, et la porte ne sera plus refermée avant le soir. Versets 1 et 2. La porte orientale donnant sur le parvis extérieur, qui est la cour intérieure, est constamment fermée parce que l'Éternel l'a empruntée. Il en serait de même de celle qui donne sur le parvis intérieur, c'est-à-dire sur la cour des prêtres. Seulement, les besoins du culte demandent à ce qu'elle soit ouverte de temps en temps. Le prince peut se tenir sur le seuil pour suivre l'offrande des sacrifices sur l'autel des holocaustes. Mais il ne lui est pas permis d'entrer dans la zone réservée aux prêtres seuls. Il ne possède donc plus les privilèges spéciaux qui étaient accordés au roi de Juda. Je continue plus loin. Et quand les gens du peuple viendront devant l'Éternel lors des fêtes cultuelles, ceux qui entreront par la porte nord pour se prosterner sortiront par la porte sud. Et ceux qui entreront par la porte sud sortiront par la porte nord. On ne repassera pas la porte par laquelle on sera entré, on sortira par la porte opposée. Verset 9. Par respect pour l'Éternel, ceux qui participent au culte doivent traverser toute l'enceinte sacrée et ne pas se contenter d'un simple aller et venu. Celui qui vient devant Dieu doit marcher en avant et ne pas revenir sur ses pas. Je continue plus loin. On offrira chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. On l'offrira chaque matin. Verset 13. Le nombre de victimes offertes n'est pas arbitraire, mais proportionnel à la solennité des circonstances auxquelles chaque sacrifice se rapporte. Chaque matin, un agneau. Le jour du sabbat, 6 agneaux et un bélier. Pour la nouvelle lune, 6 agneaux, un bélier et un taureau. Pour la fête des cabanes, 7 béliers et 7 taureaux. Et pour Pâques, 7 béliers et 7 taureaux répétés 7 fois.
C'est-à-dire un bélier et un taureau tous les jours pendant les septaines de jours, soit les 40 jours que dure cette fête.
Ézéchiel explique ensuite comment le prince peut disposer de son patrimoine. Mais en aucune façon, il ne lui est permis de confisquer les biens d'autrui comme le faisaient certains rois. Puis, l'ange fait visiter au prophète les cuisines des prêtres et celles pour le peuple lorsqu'il mange les animaux sacrifiés. Le souci d'une séparation stricte entre le sacré et le profane est toujours bien présent. Nous arrivons au chapitre 47 qui, avec le suivant, décrivent la topographie des environs du temple. Je commence à le lire. l'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple, du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. Verset 1. Le guide amène Ézéchiel du parvis extérieur où il se trouvait au parvis intérieur, c'est-à-dire dans la cour des prêtres, devant l'entrée du lieu saint du temple. Là, à ses pieds, il aperçoit une petite source d'eau qui jaillit et qui provient de dessous le sanctuaire. C'est une émanation de la vie divine. Ce phénomène est repris dans le livre de l'Apocalypse où l'apôtre Jean écrit « L'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Pour montrer à Ézéchiel ce que deviennent ces eaux, l'ange le fait sortir du complexe du temple et longer l'enceinte jusqu'à la porte est, où ces eaux réapparaissent après avoir traversé des murs et des terrasses. Selon un autre prophète, ce cours d'eau se sépare en deux bras, l'un qui va à l'ouest vers la Méditerranée et celui-ci au sud-est en direction de la mer Morte. Cette mer fait environ 73 km de long par 18 de large en son milieu et elle est à presque 400 mètres en dessous du niveau de la Méditerranée. Elle est appelée morte parce que sa densité de sel, 6 fois supérieure aux autres mers, y rend la vie impossible. Je continue plus loin. L'homme s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Versets 3 et 4. L'ange et Ézéchiel s'éloignent de 565 mètres deux fois de suite et le prophète traverse ce cours d'eau sans aucune difficulté. Cependant, il constate que sa profondeur a augmenté sans avoir reçu d'eau d'un affluent. Ce phénomène extraordinaire montre que ces eaux possèdent la vertu de se multiplier d'elles-mêmes. Je continue. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir, car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, « Fils d'homme, as-tu vu ?» Puis il me ramena sur le bord du torrent, versets 5 et 6. Le guide veut dire, as-tu vu ce grossissement rapide? Eh bien, il continue de la même manière. Maintenant, viens voir autre chose. Je continue le texte. Lorsque j'y fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre, verset 7. Lorsqu'Ézéchiel revient sur ses pas, il est surpris de voir de nombreux arbres sur les deux rives de la rivière. Il venait de pousser en un temps record pendant que le prophète descendait le cours d'eau. Il a assisté à une explosion de vie, car à mesure que les eaux se reproduisent, elles font pousser des arbres. Je continue. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre, et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer, et la vie se développera sur le passage du torrent. Verset 9. Le cours d'eau issu du sanctuaire, qui devient une rivière, va se joindre au Jourdain un peu au nord de son embouchure dans la mer morte. Ensemble, ils forment alors un double torrent qui apporte la vie partout où il passe, et en particulier à la mer morte dans laquelle il va se jeter. Je continue. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Verset 10. En-Gedi est une petite oasis à la végétation luxuriante située à peu près au milieu de la rive occidentale de la mer morte. La localité d'En-Eglaïm est inconnue, mais probablement aussi sur la même rive. Je continue. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront laissés en saline. Verset 11. Au printemps, quand la mer morte déborde, ces eaux se répandent dans les terrains bas qui l'entourent, puis en été, avec la sécheresse, ces étangs s'évaporent en laissant une épaisse couche de sel. Ézéchiel a vu ces petits lacs qui sont séparés du bassin principal. Je continue. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Verset 12. Cette rivière, source de prospérité et de santé permanente, produit des conditions de vie paradisiaques qui rappellent le jardin d'Éden. Je continue en compressant. Vous délimiterez les lots du pays pour le partager entre les 12 tribus d'Israël, chacun ayant une part équivalente à celle de l'autre. Car j'ai juré de le donner à vos ancêtres, et il vous reviendra comme patrimoine. Versets 13 et 14. Ézéchiel revient au pays d'Israël. Tout comme Dieu est entré dans son repos en prenant possession de son temple, ainsi le peuple élu n'entrera dans son repos qu'une fois que son pays sera réellement à lui. La nouvelle terre promise fera environ 220 km de long par 66 de large. Elle est donc plus grande que le pays délimité par Dieu à Moïse. Contrairement à la répartition faite par Josué, chaque tribu recevra un territoire équivalent qui fera environ 1090 km², un chiffre qu'on obtient après avoir soustrait les superficies de la partie centrale, c'est-à-dire le temple, la ville sainte et ses terrains, ainsi que les patrimoines du prince, des lévites et des prêtres. La suite du texte établit les limites de chaque tribu et elles sont sensiblement remaniées par rapport à ce qu'elles étaient au temps de David et Salomon. De plus, les territoires à l'est du Jourdain ne sont pas inclus. Je continue plus loin et finis le chapitre 47. Vous vous partagerez ce pays entre les tribus d'Israël. Vous le répartirez en tirant au sort les parts d'héritage pour vous et pour les étrangers qui résident au milieu de vous et qui ont eu là des enfants. Vous les traiterez comme les Israélites de souche. Ils tireront leur part au sort avec vous au milieu des tribus d'Israël. C'est dans la tribu même où l'étranger est installé que vous lui donnerez son patrimoine. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Versets 21 à 23. Puisque tous ceux qui entreront dans le millénium seront croyants, ces étrangers qui habitent au milieu d'Israël sont ceux qui ont risqué leur vie en protégeant les Juifs pendant les persécutions de l'Antéchrist. Nous arrivons au dernier chapitre du livre d'Ézéchiel où d'une part il donne les limites des 12 tribus, celle de la partie centrale consacrée à l'Éternel et celle du domaine du prince. Et d'autre part, il donne aussi les dimensions de Jérusalem avec ses 12 portes. Le pays est divisé en bandes horizontales parallèles de même dimension. Les tribus des servantes de Rachel et Léa, les deux femmes de Jacob, se trouvent aux extrémités du pays. 7 tribus sont au nord du complexe du temple et 6 au sud. Tout en haut se trouve Dan, puis vient Aser, fils de la servante de Léa. Il est placé entre les deux fils de la servante de Rachel, Dan, déjà cité, et Nephtali au-dessous. Les tribus suivantes sont Manassé puis Éphraïm, fils de Joseph. Elles se suivent comme autrefois, mais elles sont plus haut qu'auparavant, parce qu'elles remplacent les tribus de Zabulon et d'Issacar, envoyées dans la partie sud. Ensuite vient Ruben, qui est prudemment interposé entre les deux tribus jadis rivales d'Éphraïm, que j'ai déjà cité, et Juda, qui est transposé au nord. Puis nous arrivons à la partie centrale qui comprend le complexe du temple avec les habitations des prêtres. Les propriétés des Lévites leur sont juxtaposées au nord et Jérusalem avec ses terrains agricoles pour nourrir la ville sont au sud du temple. Cet ensemble central forme un carré de 13,5 km de côté. De part et d'autre de ce carré, les deux bandes de terrain, l'une allant jusqu'à la Méditerranée et l'autre jusqu'au Jourdain, sont la propriété du prince. Elles font chacune environ 14 km du nord au sud et 25 d'est en ouest. Comme les deux moitiés du domaine du prince sont de chaque côté du carré sacré, par sa position, il est le protecteur du sanctuaire. Au sud du complexe du temple se trouvent dans l'ordre en descendant les tribus de Benjamin, Siméon, Issachar, Zabulon et enfin Gad, qui est à l'extrême sud. Une fois le partage du pays terminé, ce sont les portes d'entrée de la ville sainte qui sont décrites. Je lis le texte. Du côté nord se trouveront les portes de Ruben, de Juda et de Lévi. Du côté est, celles de Joseph, de Benjamin et de Dan. Du côté sud, les portes de Siméon, d'Issachar et de Zabulon. Et du côté ouest, celles de Gad, d'Aser et de Nephtali. Versets 31 à 34. La capitale du millénium n'est plus comme auparavant située dans le territoire de l'une des tribus. Ces 12 noms sont des mentions honorifiques qui représentent les 12 fils de Jacob et non pas les 13 tribus. Les 3 portes du nord et les 3 du sud reçoivent les noms des 6 fils de Léa. Ruben, Juda et Lévi sont placés au nord. Siméon, Issachar et Zabulon au sud, comme ils le sont dans la répartition du pays. Les 3 premiers situés au nord ont une place plus honorable. Ruben comme étant le premier-né, Juda comme ayant reçu, par la bénédiction de Jacob son père, le rang de premier-né, Lévi comme représentant les premiers-nés d'Israël. À l'est et occupant aussi une position privilégiée, il y a Joseph et Benjamin, les 2 fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, ainsi que Dan, fils aîné de la servante de Rachel. Enfin, les 3 derniers, mis à l'ouest, sont les 3 autres fils de 2 servantes. Le chapitre 48 et le livre d'Ézéchiel se terminent disant « Et le nom de la ville sera désormais Yahvé Shama », c'est-à-dire « L'Éternel est ici ». La gloire de Dieu qui avait quitté Jérusalem est désormais de retour. En la personne du Messie, l'Éternel est non seulement dans le temple, mais aussi dans la ville. Toutes les promesses faites par Dieu à Israël sont accomplies. L'Éternel est ici est donc le couronnement de l'histoire d'Israël.